Chapitre 3. La nuit noire de l'âme. Ne te sens jamais sûr de la femme que tu aimes. Léopold von Zacher-Masoch. 1. À en juger par les vignettes qui s'accumulaient sur son pare-brise, le Range Rover de Mark Karadec circulait depuis la fin des années 1980. Le vieux tout-terrain, plus de 300 000 km au compteur, se faufilait dans la circulation avec la grâce d'un bloc de béton dépassant les arbres du parc Montsouris, traversant le périph, longeant les graffitis de l'avenue Paul Vaillant-Couturier, puis la façade en damier de l'hôtel Ibis rue Barbès. J'avais confié Théo à Amalia et j'étais soulagé que Marc ait proposé de m'accompagner. À cet instant, j'avais encore espoir que les choses s'arrangent. Peut-être qu'Anna n'allait pas tarder à réapparaître. Peut-être que son secret n'était finalement pas si grave. Elle me fournirait des explications, la vie reprendrait son cours, et notre mariage serait célébré à la date prévue, fin septembre, dans la petite église de Saint-Guilhem-le-Désert, le berceau historique de ma famille. Un parfum étrange flottait dans l'habitacle. Des effluves de cuir et d'herbes sèches mélangées à une lointaine odeur de cigare. Marc rétrograda. Le 4x4 tout sauta, comme s'il avait soudain perdu de son souffle. Le véhicule était pour le moins rustique. Ses sièges en velours étaient usés jusqu'à la corde, ses amortisseurs donnaient l'impression d'avoir rendu l'âme depuis longtemps, mais sa hauteur de caisse et sa vitre panoramique permettaient de se tenir au-dessus de la mêlée dans la circulation. Avenue Aristide Briand, l'ancienne Nationale 20, large comme une autoroute, avec ses 2x4 voies. « C'est ici, » dis-je en désignant l'immeuble d'Anna, de l'autre côté de la route. « Mais tu peux pas traverser à ce niveau, tu dois faire demi-tour au carrefour de... » Sans me laisser terminer ma phrase, Marc braqua son volant à fond. Dans un concert de klaxons et de crissements de pneus, il fit un demi-tour dangereux, coupant le passage à deux véhicules qui pilèrent pour éviter de justesse l'accident. « T'es complètement inconscient !» Le flic secoua la tête, et non content de cette première infraction, escalada le trottoir pour y immobiliser le Range Rover. « On peut pas se garer ici, Marc !»« On est la police !» trancha-t-il, en tirant son frein à main. Il abaissa le pare-soleil sur lequel était fixée une plaque. Police nationale.
Qui va croire que des flics roulent dans ce tape-cul ?
Demandai-je en claquant ma portière.
D'ailleurs, t'es même plus flic !
Il sortit sa clé universelle de la poche arrière de son jean.
Flic un jour, flic toujours,
dit-il en ouvrant la porte qui permettait d'accéder au hall d'entrée. Miracle. Depuis ma dernière venue, on avait réparé l'ascenseur. Avant de monter, j'insistai pour aller jeter un coup d'œil au parking souterrain. La mini d'Anna était garée à sa place. Retour à l'ascenseur. 12e étage. Couloir désert. À nouveau, après avoir sonné, je tambourinais à la porte sans plus de succès qu'auparavant.
Pousse-toi,
ordonna le flic en prenant son élan.
Attends, c'est peut-être pas utile d'enfoncer le...
2. La porte céda au deuxième coup d'épaule. Karadec avança dans le couloir et en quelques coups d'œil cerna l'espace. Moins de 40 mètres carrés, bien aménagé. Parquet en chêne, intérieur crème, nuancé de touches pastel, salon meublé à la scandinave, cuisine ouverte, dressing qui courait jusqu'à la chambre. Un appartement vide et silencieux. Je revins sur mes pas pour examiner la gâche et le montant. La porte avait cédé facilement parce qu'aucun des deux verrous n'était fermé. La dernière personne à avoir quitté l'appartement s'était donc contentée de claquer la porte sans la verrouiller. Pas vraiment dans les habitudes d'Anna. Deuxième surprise. Le sac de voyage d'Anna gisait dans l'entrée au milieu du couloir. Un cabas zippé en veau tressé, bardé de pièces de cuir colorées. Je m'agenouillai pour explorer ses compartiments, mais n'y trouvai rien de remarquable.
« Donc Anna est bien rentrée de Nice »,
commença Karadec. Avant de s'évaporer à nouveau, me désolai-je. Dans une bouffée d'angoisse, j'essayai de la rappeler sur son portable, mais tombé sur la messagerie.
« Bon, on fouille l'appartement »,
décida Marc. Vieux réflexe du flic en perquise, il était déjà en train de démonter la chasse d'eau. « Je ne sais pas si on a le droit de faire ça, Marc. » N'ayant rien découvert dans la salle de bain, il migra vers la chambre.
« Je te signale que c'est toi qui as commencé. » Si t'avais pas fouiné dans le passé de ta copine, tu serais en ce moment avec elle sur la Côte d'Azur en train de te dorer la pilule.
C'est peut-être pas une raison pour...
Raphaël, me coupa-t-il. En interrogeant Anna, t'as eu une intuition qui s'est révélée juste. À présent, il faut que tu termines le boulot.
Je regardais la chambre. Un lit en bois clair, une armoire remplie de fringues, une bibliothèque croulant sous les bouquins de médecine, les dictionnaires et autres livres de grammaire qui m'étaient familiers. Le Grévis, le Hans, le Berthaud du Chazot. Quelques romans américains aussi en version originale. Donna Tartt, Richard Powers, Toni Morrison. Après avoir examiné les lattes du sol, Marc entreprit de retourner les tiroirs.
« Occupe-toi de son ordinateur !»
demanda-t-il en constatant que je restais immobile.
« Moi, j'y connais pas grand-chose en informatique. »
Je repérai le MacBook sur le comptoir du bar qui faisait office de séparation entre la partie cuisine et le salon. Depuis que j'avais rencontré Anna, je n'avais dû venir ici que 5 ou 6 fois. Cet appartement était son repère et l'ambiance de la pièce dans laquelle j'évoluais était à son image. Élégante, sage, presque ascétique. Comment avais-je réussi à la mettre en colère au point qu'elle disparaisse? Je m'installai devant l'écran et appuyai sur une touche pour activer la machine. Accès direct au bureau, sans mot de passe. Je savais que ça ne servirait à rien. Anna ne faisait pas confiance aux ordinateurs. Si elle avait vraiment quelque chose à cacher, je doutais de le trouver dans les entrailles d'un Mac. Par acquis de conscience, je commençai par faire défiler les mails. Essentiellement des messages en relation avec ses cours et ses stages à l'hôpital. Dans sa bibliothèque multimédia, du Mozart en pagaille, des documentaires scientifiques et les dernières séries télé que nous regardions ensemble. Historique de navigation, sites d'infos, sites institutionnels et des tonnes de pages consacrées à des recherches portant sur le thème de son mémoire. Résilience, facteurs génétiques et épigénétiques. Rien de marquant dans le reste du disque dur. Presque entièrement rempli de notes, de tableaux, de documents PDF et de présentations PowerPoint ayant trait à ses études. L'ordinateur n'était pas intéressant par ce qu'on pouvait y trouver, mais plutôt par ce qui ne s'y trouvait pas. Aucune photo de famille, pas de film de vacances, pas de mail attestant l'existence d'un véritable réseau d'amis.
« Il faut que tu jettes un coup d'œil à cette paperasse !»
m'annonça Karadek en revenant dans la pièce, les bras chargés de cartons, remplis de dossiers regroupant des documents administratifs. Fiches de paie, factures, quittances de charges et de loyers, relevés de banque. Il posa les boîtes sur la table, puis me tendit une pochette plastifiée.
« J'ai aussi dégoté ça. Rien sur l'ordinateur ?»
Je secouai la tête et regardai à l'intérieur du film plastique. Il s'agissait d'une traditionnelle photo de classe, comme on en faisait de l'école maternelle au lycée. Sur le cliché, une 20aine de jeunes filles, bon chic, bon genre, prenaient la pose dans une cour de récréation. Un professeur, une femme d'une 40aine d'années, accompagnait le groupe. L'élève assise au milieu tenait une ardoise sur laquelle était inscrit à la craie « Lycée Sainte-Cécile, Terminale S, 2008-2009 ». Au dernier rang, je reconnus tout de suite mon Anna. Tout en réserve et en retenue, le regard un peu détourné, les yeux légèrement baissés. Sourire sage, pull marine en V, sur un chemisier blanc, fermé jusqu'au dernier bouton. Toujours cette volonté de se rendre transparente, de gommer sa sensualité, pour faire oublier sa beauté saisissante. Ne pas se faire remarquer, ne pas susciter le désir.
« Tu connais cette école Sainte-Cécile ?» demanda Marc en sortant son paquet de cigarettes.
Je fis une recherche rapide sur mon téléphone. Située rue de Grenelle, Sainte-Cécile était une institution religieuse des beaux quartiers, un lycée privé catholique et sélect qui scolarisait uniquement des filles.
T'étais au courant qu'Anna avait fréquenté cet endroit? Tout ça cadre pas vraiment avec le portrait de la petite fille pauvre de Saint-Nazaire,
reprit Marc en allumant sa clope. Nous nous plongeâmes dans les archives contenues dans les cartons. En recoupant les différents documents, nous parvîmes à reconstituer le parcours d'Anna. Elle vivait à Montrouge depuis 2 ans. Elle avait acheté cet appartement en 2014, lors de sa 3e et dernière année d'externat. Un bien payé, à l'époque, 190 000 euros, financé par un apport de 50 000 euros, ainsi que par un emprunt sur 20 ans. L'accession classique à la propriété. En 2012 et 2013, elle avait loué un studio dans un immeuble de la rue Saint-Guillaume. Plus tôt, en 2011, on trouvait des quittances de loyer pour une chambre de bonne de l'avenue de l'Observatoire établie par un certain Philippe Lelièvre. La piste s'arrêtait là. Impossible de savoir où avait vécu Anna lors de sa première année de médecine et de ses années de lycée. Chez son père, dans une résidence du Crous, dans une autre chambre de bonne payée au black, à l'internat de son lycée. 3. Karadec écrasa son mégot dans une soucoupe et poussa un soupir. Pensif, il alluma la cafetière colorée posée sur le comptoir et y inséra une capsule. Pendant que l'eau chauffait, il continua à passer en revue les documents restants. Il s'arrêta sur la photocopie d'une vieille carte d'assuré social, plia la feuille et la mit dans sa poche. Puis il inspecta sans succès le four, la haute aspirante, sonda le parquet et les cloisons. Sans me demander mon avis, il nous prépara à chacun un ristretto mousseux. Il dégusta son arabica, les yeux dans le vague. Quelque chose le chiffonnait, mais il ne savait pas encore quoi. Il demeura silencieux une minute, jusqu'à ce qu'il trouve. « Regarde le lampadaire !» Je me tournai vers l'halogène, planté dans un coin du salon. « Oui ?»« Pourquoi l'avoir branché à l'autre bout de la pièce, alors qu'il y a une triple prise dans la plinthe, juste à son pied ?»« Pas con. » Je m'approchai du luminaire, m'agenouillai et tirai sur le boîtier de la triple prise qui me resta dans les mains. Comme l'avait deviné Karadec, il n'était relié à aucun câble. Je me couchai sur le sol, passai l'avant-bras dans l'espace libéré et parvins à faire pivoter puis à retirer la plinthe. Quelque chose était caché derrière la bande de bois. Un sac. 4. C'était un gros baluchon en tissu jaune orné du logo circulaire de la marque Converse. Recouverte d'une fine couche de poussière, sa toile s'était décolorée. Autrefois moutarde, elle affichait à présent un teint pisseux qui trahissait son âge. Le sac était trop lourd pour être honnête. Aussi excité qu'angoissé, j'ouvris la fermeture éclair en redoutant ce que j'allais y trouver. Putain ! J'avais raison de m'inquiéter. Il était rempli de liasses de billets de banque. Je reculai d'un pas, comme si le fric était vivant et allait me sauter au visage. Karadec renversa le contenu sur la table, principalement des coupures de 50 et 100 euros. L'argent s'éparpilla sur le comptoir, formant une pyramide affaissée aux fondations précaires. Y en a pour combien ? Il compta quelques liasses et plissa les yeux en effectuant un calcul mental.
À vue de nez, je dirais environ 400 000 euros.
Anna, qu'est-ce que tu as fait ? D'où vient ce fric, selon toi ? Demandai-je, sonné.
Pas des consultations d'Anna à l'hôpital, en tout cas.
Je fermai les paupières un instant en me massant la nuque. Une telle quantité de cash pouvait provenir d'un braquage, de la vente d'une quantité astronomique de drogue, d'un chantage auprès d'une personne très fortunée. Quoi d'autre ? À nouveau, la photo des trois cadavres carbonisés fit irruption dans mon esprit. Il y avait forcément un lien avec cet argent, mais lequel ?
T'es pas au bout de tes surprises, mon gars.
À l'intérieur du sac, dans une poche latérale zippée, Karadec venait de trouver deux cartes d'identité illustrées d'une photo d'Anna à l'âge de 17 ou 18 ans. La première était au nom de Pauline Pagès, la deuxième de Magali Lambert. Deux noms qui m'étaient inconnus. Marc me les reprit des mains pour les observer attentivement.
Elles sont fausses, naturellement.
Déboussolé, je laissai mon regard fuir par la fenêtre. Dehors, la vie continuait. Le soleil ruisselait, impassible, sur les façades de l'immeuble d'en face. Une guirlande de lierre s'enroulait autour d'un balcon. C'était encore l'été.
« Celle-ci, c'est de la merde », affirma-t-il en agitant la première carte. « Une mauvaise copie fabriquée en Thaïlande ou au Vietnam. Pour 800 euros, tu peux en trouver une dans n'importe quelle cité un peu craignos. Un truc de toxico. »
Et la seconde ? Tel un diamantaire devant une pierre précieuse, il ajusta ses lunettes et scruta la carte de son œil d'expert.
Ça, c'est nettement mieux, même si ça date pas d'hier. Fabrication libanaise ou hongroise. 3000 euros environ. Ça résistera pas à un examen approfondi, mais tu peux t'en servir sans crainte pour la vie de tous les jours.
Le monde se mit à tourner. Tous mes repères s'effondraient. Il me fallut une bonne minute pour reprendre mes esprits.
Au moins, à présent, les choses sont claires,
trancha Karadec.
Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à remonter la piste du passé d'Anna Becker.
Je baissai la tête. À nouveau, la photo atroce des corps carbonisés fractura mon esprit. Avec la petite voix d'Anna qui me murmurait « C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. »